Chapitre 7 et dernier. Un quart d'heure après, la cour reparaissait dans un calme impressionnant. Les deux accusés, comme si rien ne s'était passé, reprenaient placidement place à leur banc, et le président déclarait avec énergie « Je ne veux plus tolérer ces manifestations regrettables qui sont scandaleuses et de nature à nuire à la dignité de la justice. » Maître de Borgia-Ferri, chevaleresquement, déclarait « Il n'y a, dit-il, à voir dans cet incident qu'un excès d'ardeur combative des partis en présence. » À son tour, l'avocat général Mansell s'associait aux paroles du président et de la défense. Grâce à la défense, au président et au tact des adversaires, l'incident était clos. Le défilé des témoins de moralité reprenait paisiblement jusqu'à 6 heures. Les débats étaient alors suspendus et renvoyés au jour suivant pour l'audition des derniers témoins et la plaidoirie de la partie civile. Le lendemain, on entendait plusieurs témoins à décharge, dont Madame Morel, femme de lettres, auteure d'œuvres féministes, qui prononça un éloge enthousiaste de Madame Bessarabo, alias Sarah Myrtle. Paul Jacques, disait-elle, me confiait, si vous saviez combien ma mère est malheureuse, vous ne me conseilleriez pas de me marier. Et pour définir le labeur acharné de l'accusé, Madame Morel s'écriait « Mais elle a travaillé comme une bourrique !» Mais, sans se laisser émouvoir par les rires que provoquait cette boutade, Madame Morel ajoutait « La vie est assez dure pour qu'on ne se lâche pas quand le malheur arrive. » Et désignant l'accusé au juré, elle scandait en agitant les bras « Mais elle est maternelle, elle est maternelle !» M. Jules Romain, agrégé, professeur de philosophie et chef d'école unanimiste, déclarait ensuite qu'il avait rencontré Mme Bessarabo dans des milieux littéraires, qu'il n'avait pas lu ses livres et qu'il la considérait comme un esprit fumeux mais loyal. Rien en elle ne lui semblait suspect. Comme il ne restait plus de témoins à entendre, le président donnait la parole à Maître d'Orville pour la partie civile. Avec une sobre éloquence, toute de gravité et de mesure, Maître d'Orville, après avoir déclaré qu'il acceptait le non-lieu dont avait bénéficié la veuve Jacques, s'écriait « Jacques s'est suicidé, mais lentement, comme d'autres sont morts lentement de leur infortune conjugale. » Puis il en arrivait au crime qui avait coûté la vie à l'infortuné Bessarabo. Après avoir appelé la tentative de strangulation dont le négociant avait déjà été l'objet, et s'est efforcé d'établir que la situation financière de Bessarabo était beaucoup moins mauvaise que sa femme ne le prétendait, tandis que celle-ci, au contraire, était à court, il développait. C'est pour cela, pour se procurer tout de suite les sommes dont elle a besoin, qu'elle rétrocède à sa mari la part de la commission d'Olivier. Mais bientôt, elle regretta d'avoir abandonné pour 60 000 francs ce qui aurait pu lui rapporter 200 000, et dès lors, elle se résout au crime. Bessarabo sera tué. On fera disparaître son cadavre. Il deviendra légalement un absent. Madame Bessarabo touchera les 600 000 francs, et on aura l'administration tant que durera cet état d'absence légale. De la sorte, elle fera mieux que de rentrer dans sa part abandonnée. Elle aura tout. Aussi, elle se met à préparer en même temps son crime, son départ pour le Mexique. En vue d'expliquer la disparition de M. Bessarabo, sa femme imaginera de le faire passer pour un espion. De là, les plaintes qu'elle prépare pour le procureur de la République. Quand on saura que Bessarabo est accusé d'espionnage, personne ne s'étonnera qu'il ait pris la fuite. Et Maître d'Orville arrive à la mort de la victime. « Cette mort, s'écrie-t-il, mais qui la racontera? Elle est le secret de ces deux femmes. Mais il y a deux faits certains. Elles ont voulu le tuer et elles l'ont tué. car leur version est si romanesque qu'elle répugne au simple bon sens. Tant qu'elles n'auront pas parlé, nous dirons, elles ont tout fait ensemble. Aujourd'hui, elle nie malgré l'évidence. Il faudra cependant qu'on explique le crime. Crime d'amour, non. Crime patriotique, non. Calme de créancier tuant son débiteur, non. Madame Bessarabeau a tué pour les 600 000 francs de la commission Olivier. Peut-être, diront-elles, nous avons tué un juif, un roumain, un escroc, un bandit. Peut-être, diront-elles, est-il bien mort, et celui qui était dans la malle, nous ne l'avons pas vu. Rappelez-vous l'histoire du téléphone. Ces femmes ont pendant 2 ans bafoué la justice. Le secret de Madame Bessarabeau, elle l'aurait fait connaître à sa fille à Saint-Lazare. Mais le secret, le voici. C'est que ces 2 femmes ont tué un homme pour le voler, qu'elles ont piétiné son cadavre pour le tasser dans une malle, qu'elles l'ont expédié le plus loin possible pour retarder la découverte du crime. Ce mort, elles l'ont sali, elles ont sali sa famille, et cette famille vient vous confier ce qu'elle a de plus précieux, son honneur. L'avocat général Mancel succédait à Maître d'Orville. Après avoir fait le récit de l'enfance de Madame Bessarabeau, puis de sa jeunesse, il évoquait son départ pour le Mexique, son mariage avec M. Jacques et son retour à Paris. Il la montrait éprise de belles lettres, fondant des revues, organisant des réunions littéraires, écrivant des romans, des pièces de théâtre, et surtout jetant l'argent par les fenêtres, tout en s'inclinant devant l'ordonnance de justice qui déclarait que réellement M. Jacques s'était suicidé, il n'en demeurait pas moins convaincu que, goutte à goutte, pendant des années, l'accusé avait versé le poison, doublant la dose permise pendant les derniers temps. Et c'est pourquoi elle prit tant de soins pour éviter une autopsie qui aurait révélé la preuve de son crime. Et parlant du second mari, M. Mancel s'écriait « Mais ce ne fut qu'un jeu pour la veuve !» Jacques d'éblouir le naïf Bessarabeau par ses dehors de femme de monde et de femme de lettres. Léger, brouillon, travailleur cependant, généreux, vaniteux, bon vivant, hâbleur, inconsistant mais séduisant, plaisant aux femmes, aimant à leur plaire, tel apparaît Bessarabeau. Oui, c'est un viveur, sans doute, mais pas un malhonnête homme, ni un nègre fin. Les accusations d'espionnage et de trafic des réformes frauduleuses, mensonges, invention de la femme. L'accusation d'avoir attenté à la vertu de sa fille, mensonge. A-t-il quitté le Mexique par crainte d'être arrêté ? Un témoin honorable dément. Le vrai, c'est que nous ignorons exactement ce qui s'est passé. Et si le ménage a quitté le Mexique, ne serait-ce pas plutôt en raison du scandale causé par l'attitude défaitiste de Madame Bessarabeau, qui au moment où les soldats tombaient à Verdun, perdait son temps à publier des poésies intitulées « Complaintes de guerre ». Après avoir tracé un tableau pittoresque des premières année de la vie du ménage à Paris, M. Mancel poursuivait. Bessarabeau a des maîtresses et sa femme n'en est pas jalouse, du moins d'une jalousie d'épouse. Son orgueil seul en est blessé. Dès lors, la vie devient intolérable pour Bessarabeau. Elle veut tenter de l'étrangler. Une rupture s'ensuit, puis on se réconcilie. « Sans condition, a dit l'accusé. Double mensonge. Pour faire la paix, elle arracha à son mari une part sur la commission Olivier. Je glisse sur la façon de savoir si elle eut des amants. J'accorderais volontiers qu'elle était assagie par l'âge. Le plus probable, c'est que son ardeur se concentra sur ses œuvres littéraires. Orgueil démesuré, presque touchant, à force d'être ridicule. » Après avoir tracé un croquis pittoresque du salon d'Hera Myrtle, où l'on n'apercevait jamais son mari, « Mais tout cela, s'écriait-il, Eh bien, qu'aux réceptions, les invités ne touchassent pas au petit four, comme le dit l'un d'eux. Tout cela devait coûter de l'argent, et où en trouver? Il était déjà 6 heures du soir. Le président Gilbert levait l'audience. Dès le lendemain, le ministère public reprenait le cours de ses réquisitions. « J'en arrive au crime, disait-il. Les accusés prétendent avoir un secret, mais qu'elles le disent, je discuterai. En attendant, aucune de leurs explications ne tient debout. « Est-il besoin, s'écriait M. Mancel, que je m'accorde à discuter une si médiocre invention, un si mauvais roman, indigne même de l'imagination d'Héra Myrtel, et que l'on croirait inspiré du pire cinéma policier? Que signifie ce silence? Quant à les croire, elles n'auraient qu'un mot à dire pour faire éclater leur innocence. Maintenant, laquelle des deux a tué, la mère ou la fille? Que conclure après tant d'aveux et de rétractations contradictoires? Aucun doute ne doit subsister dans vos esprits, messieurs les jurés, ni sur la question de culpabilité, ni sur celle de la préméditation. Vous avez devant vous deux co-auteurs d'un même crime qu'ils ont préparé et exécuté ensemble. Ces deux femmes ont la même responsabilité. Elles ont tué pour de l'argent. Elles sont sans excuse. Pourquoi leur feriez-vous l'aumône de circonstances atténuantes? La peine de mort n'est-elle pas abolie pour les femmes? Elles ne subissent pas davantage le châtiment de la déportation. C'est donc dans une maison centrale, en France, que les condamnés subiront la peine sévère. Quant à la justice, je ne manquerai pas de leur infliger. Monsieur de Moreau-Giaferi se levait. Il avait à plaider l'une des causes les plus difficiles et plus ingrates que l'on pût imaginer. Le grand et prestigieux avocat s'attachait tout d'abord, suivant son expression, à alléguer l'affaire Jacques. Dominant sa fougue, courtois devant ses adversaires, mais n'oubliant rien de ce qui avait été dit, habile à reproposer, surtout au jury, l'examen de tout ce qu'on pouvait tenir pour argument hasardeux, l'orateur poussa bien loin la faculté brillante de passer de la discussion serrée à l'éloquence dépouillée. Pendant toute la durée de l'audience suivante, il allait, tâche ardue entre toutes, développer et achever magnifiquement sa plaidoirie que la veille il avait à peine commencée. « Maintenant, messieurs les jurés, attaquait-il, nous irons dans la brousse. Plus d'idées générales, je n'ai que faire de ces compagnons empanachés. Nous allons peut-être rencontrer quelques surprises plus marquantes que celles qui signalèrent plusieurs de ces audiences. » Et devant une salle frémissante, Maître de Moreau-Giaferi s'évertuait à détruire la légende représentant Bessarabot comme un excellent homme d'affaires. Revenant sur la légèreté de ses mœurs et ses infidélités conjugales, il s'écria « Bessarabot fut-il assez odieux pour qu'un jour sa femme lui sauta à la gorge? Ah ah, s'il en était ainsi, quel beau procès j'aurais à plaider !» Il s'efforçait ensuite de détruire le mauvais effet que les contradictions de sa cliente ont pu semer dans l'esprit du jury. « Quel cadavre était dans la malle » demanda-t-il. « Celui de Georges Bessarabot, soutient l'accusation. » Et Madame Bessarabot en douta, voyant au mort un appareil de prothèse dentaire qu'elle ne connaissait pas au vivant. Gustave Weissmann a reconnu son frère. C'est donc que Georges Bessarabot s'est tué, qu'on a introduit son cadavre dans la malle et qu'on a renvoyé collé à Madame Bessarabot par suite de ne sais quelle machination. Oui, Madame Bessarabot a avoué, mais l'aveu, ce n'est rien. Et après avoir appelé de nombreux exemples d'aveux imaginaires, Maître de Moreau-Giaferi poursuivait. Le grand magistrat que M. Bonin ne la renvoyait pas devant la cour d'assises. Elle avouait et son instruction continuait. Par-delà, les aveux balbutiés par la mère et par la fille, le juge d'instruction poursuivait lui-même la recherche de la vérité. Et dans un mouvement splendide, le grand orateur s'écriait « Mais n'est-il pas possible qu'un inspecteur de police ait conseillé à Mme Bessarabo d'avouer pour empêcher que sa fille soit mêlée aux filles publiques ?»« Vous ne voulez pas le croire, monsieur l'avocat général, moi j'en suis convaincu. » Pour être tenté d'avouer, c'est bien assez pour une mère que la vision de sa fille enfermée dans cette prison de Saint-Lazare, dont le maintien est une honte pour notre société. Après les aveux de la mère, je le sais, il y a les aveux de la fille. Mais c'est la mère qui a parlé la première. À travers la cloison, sa fille a entendu donc ses aveux suspects dans leur naissance et suspects dans leur manifestation. Et depuis, quelle preuve absolue a-t-on apporté? Je n'en vois aucune. On a un instant admis la possibilité du crime par un tiers. Puis bon, ce n'est pas lui, dit l'accusé, quand déjà le jury a son opinion faite sur ce jeune homme. Ce n'est pas davantage Becker, dit Madame Bessarabo. Becker pendu 2 jours après la découverte du crime. Et enfin ce fameux mobile, cette commission de 600 000 francs que Madame Bessarabo devait soi-disant s'approprier. La mort de Bessarabo et particulièrement son absence légale mettait l'accusé dans l'impossibilité de toucher un sou sur les 600 000 francs avant plusieurs années. Pourquoi dès lors cette femme aurait-elle tué? Vous acquitterez, messieurs les jurés. On ne risque jamais à absoudre, et c'est la raison pourquoi toutes les religions, toutes les philosophies ont accueilli cette vérité que dans le doute, il faut acquitter. En matière de justice, il n'y a pas de demi-mesure. Celui qui ne juge pas très bien juge mal. On ne juge pas seulement sur un fait, on juge sur une vie entière. Marié à un homme qui lui a pris sa fortune, qui l'a trompé, trahi, elle a souffert. Un juge qui a la certitude des souffrances intimes comme celle-là, s'il ne les pardonne pas, malheur à lui. L'auditoire éclatait en applaudissements, saluant une fois de plus le splendide talent de l'un des plus grands maîtres du barreau. Il était tard. À la demande du jury, maître Raymond Hubert remettait au lendemain sa plaidoirie sur Mademoiselle Paul Jacques. En proie à une vive émotion, maître Raymond Hubert s'efforçait de ravir à la geôle, voire au châtiment suprême, une jeune fille que l'on disait criminelle et qu'il représentait comme une martyre. Chaleureusement, brillamment, affirmant le droit d'un être jeune à une autre vie, il se trouvait les accents émouvants qui produisirent un gros effet sur l'assistance. Lorsqu'il eut terminé, le président demandait « Paul Jacques, qu'avez-vous à ajouter ?»« Messieurs les jurés, vous voulez la vérité, eh bien je vais vous la dire. Le 31 juillet, à 2 heures du matin, j'ai été réveillé par une détonation. Je me suis levé, j'ai crié « Maman, maman !» On ne m'a pas répondu. Alors j'ai été jusqu'à la porte de ma chambre. J'ai voulu l'ouvrir, elle était fermée à clé, ce qui m'étonna beaucoup. J'ai attendu un peu, puis ma frayeur me reprenant, j'ai crié de nouveau, appelant ma mère. Et puis j'ai entendu dans le cabinet de toilette des pas lourds et le bruit de quelqu'un qui se gargarisait. J'ai cru que c'était mon beau-père. Et au bout de quelques instants, maman est venue ouvrir. Elle était très grave. Je lui ai dit « Qu'y a-t-il ?» Et elle me répondit « Ne fais pas attention. Tu as entendu l'explosion d'un chauffe-bain. Recouche-toi. » Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis avancé vers le cabinet de toilette. J'ai vu une forme étendue. J'ai dit « Maman, qu'as-tu fait ?» Elle m'a répondu « C'était lui ou moi, Paulette. Comprends-moi. » J'ai dit alors, « Mais laisse-moi aller chercher les commissaires de police, là, arrangeant les choses. » Sic, Elle n'a pas voulu. Elle m'a dit, non, je ne veux pas de scandale. Va chercher la balle au sixième. Et voilà. Je vous jure que ce que j'ai dit est la vérité. C'est toute la vérité, messieurs les jurés. Mais non, non. Je n'ai pas touché à cette chose, le corps. Je n'ai pas touché à ça. J'ai dit à maman, pas ça, pas ça. Elle a ouvert la malle et elle m'a dit, tu ne verras rien, je te le promets. Alors je suis rentré dans la chambre. Suivit ensuite le récit de l'expédition de la malle, conforme à ce qui avait été dit lors de la période des aveux. Après avoir avoué qu'elle avait écrit le billet signé faussement Bessarabot, Mademoiselle Paul-Jacques confessait qu'il n'y avait pas de secret. À l'infirmerie de Saint-Lazare, déclarait-elle en sanglotant, maman fut autorisée à venir à mon chevet quand j'étais mourante, et le médecin-chef m'avait dit, tu mourras demain, dis ce que tu veux. Et maman m'a dit, mais je te jure que je suis innocente, tu ne m'as pas vu tuer ton beau-père. Alors rien ne pouvait me causer plus de joie, je pouvais mourir après. Oh, j'aurais tant voulu que ce fût vrai. Mais ici, à l'audience, quand maman m'a crié, tais-toi, j'ai compris que cela n'était pas vrai. Et Paul-Jacques s'écroulait à son banc. Madame Bessarabot demandait la parole. Tragique, elle entamait une véritable plaidoirie incohérente qu'elle accompagnait de gestes exagérés. Bien que brisé de fatigue, maître de Montrouge-Jaffery, sentant que sa cliente achevait de se perdre, intervenait d'une voix brisée, criait par trois fois la jeune fille effondrée. Paul-Jacques, avez-vous vu votre mère tuer quelqu'un? Et se retournant vers les jurés, il ajoutait. Est-elle en état de me répondre? Cet enfant a cru devoir accuser pour mieux sauver. Oh, je ne lui poserai pas la question, mais combien avais-je raison d'écarter les aveux des preuves judiciaires? Les aveux d'un co-inculpé, ce n'est rien. Malheur à la justice si dans une audience comme celle-ci, elle se disait, je crois celle qui pleure le mieux. Maître Raymond Hubert se contentait d'ajouter en montrant Paul-Jacques à demi évanoui. Messieurs les jurés, vous sauverez cette martyre. Le jury se retirait alors dans la salle des délibérations. Au bout de 50 minutes, il rapportait son double verdict. En ce qui concernait Mademoiselle Jacques, il était négatif. Pour Madame Bessarabot, il était affirmatif sur la question du meurtre, sur celle de la préméditation, avec toutefois le bénéfice des circonstances atténuantes. Ordre était donné d'introduire Paul-Jacques. En entendant prononcer son acquittement, elle eut une de ces gestes vagues, brisés, comme elle en avait eu tout au cours de ses longues audiences. L'ordre de la relaxer immédiatement ayant été donné par le président Gilbert, elle suivit ses gardes qui maintenant lui montraient le chemin de la liberté. Madame Bessarabot parut à son tour seule, non pas livide, mais empourprée au contraire. Le greffier redit pour elle un verdict qui la condamne. Alors, maître de Montrouge-Jaffery se leva pour la dernière fois et s'adressant à la cour. Vous allez condamner, dit-il, un être qui a reculé la limite de la souffrance humaine. Je vous conjure de ne pas l'oublier, Paulette. Est acquitté, mais que votre arrêt de justice soit logique avec vous-même. Car si la fille est innocente, comment établir la préméditation? Il y a absolution complète d'un côté, il faut le minimum de peine de l'autre. Mais Madame Bessarabot s'écriait à son tour, du fond du cœur, messieurs les jurés, merci, merci d'avoir acquitté ma fille. La cour se retirait pour délibérer et revenait bientôt avec un arrêt condamnant Madame Bessarabot à 20 ans de travaux forcés. Un franc était accordé à la partie civile à titre de dommages-intérêts. Avant de se retirer, Madame Bessarabot s'écriait Je suis innocente. Quelques semaines après, Madame Bessarabeau était transférée dans la maison centrale de Rennes, où elle apprenait bientôt que le pourvoi en cassation qu'elle avait formé était repoussé. Et sur cette affaire effroyable, ce fut le silence. 7 ans après le verdict qui avait condamné sa mère à 20 ans de travaux forcés, Mademoiselle Paul Jacques s'en allait déclarer au procureur de la République qu'elle avait inventé, pour expliquer comment elle n'était pas intervenue au cours du drame, le fait que la porte de sa chambre avait été fermée à clé par sa mère. Et voici ce qu'elle ajoutait. « J'ai menti spontanément. Mon avocat lui-même ne pouvait pas deviner mon plan infernal. Ce plan, je vais vous le dévoiler. Je voulais être libre tout de suite pour retrouver la compagne que j'avais connue à Saint-Lazare, qui avait été libérée et avec qui j'ai vécu 5 ans après mon acquittement. Oh, que m'importait dans la frénésie de la revoir le verdict et le sort de ma mère. C'est fini maintenant de toutes ces horreurs, allez !» Et elle confiait ceci à notre excellent confrère Joe London. « Il y a 8 ans que ma mère est en prison. Par ma faute, elle paye une dette plus lourde que celle dont elle était capable envers Dieu et les hommes. Puisse les efforts réunis de M. Hêtre de Moreau de Briache-Ferry, son éminent avocat, et de Maître Raymond Hubert, mon défenseur, pour qui j'aurai jamais assez de gratitude, réparer l'erreur judiciaire dont je suis l'unique responsable. » Ajoutons que, comme la déclaration du témoin ne visait que la question de préméditation, qui n'a pas trait à une erreur possible en la personne auteur du crime sur les circonstances mêmes de ce crime, cette révélation ne pouvait servir de base à une révision du procès et ne fut pas prise en considération. Madame Bessarabeau ne devait pas sortir de la prison de Rennes. Elle vient d'y mourir.